Je vous invite à écouter la lecture de la parole de Dieu.
Donc la première lecture, Jacques 1. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Et dans Jacques 2, « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en pratique, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. » Sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Fort bien. Mais les démons, eux aussi, le croient et ils tremblent. Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? N'est-ce pas par ses œuvres qu'Abraham, notre père, est devenu juste lorsqu'il a présenté son fils Isaac sur l'autel du sacrifice? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu. Aussi, il lui fut accordé d'être juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres et non seulement par la foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. N'est-elle pas, elle aussi, devenue juste par ses œuvres, en accueillant les envoyés de Josué et en les faisant repartir par un autre chemin? Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Merci pour cette lecture. Alors la première chose à noter, c'est le grand contraste avec ce que nous venons de lire et ce que nous venons de vivre ensemble dans la première partie du culte, le repos en Dieu. Mais nous voulons quand même, devant ces versets, mettre en pratique ce que nous avons chanté « Je ne m'inquiète pas ». Parce que c'est vrai, ce message semble dur. Et il se trouve qu'on l'a lu aujourd'hui parce que, à l'occasion de cette rentrée, nous nous lançons le défi, donc c'est d'une part le collège pastoral, mais nous nous lançons à nous-mêmes et à nous tous ici, Église, de lire ensemble la lettre de Jacques, et ceci sur l'ensemble de l'année scolaire, avec des temps de culte comme aujourd'hui, avec des études bibliques et des rencontres de maison mensuelles. Et donc, vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Déjà, est-ce qu'il y a assez de matière? Soraya vient de lire presque 20% de la lettre. On peut la lire d'une traite en 5 à 10 minutes. Elle est si courte. Elle a un style simple et direct, facile à comprendre, même aujourd'hui. Alors pourquoi la lire? C'est bien à cause de l'importance de son message et de la nature de son message. Et en fait, je n'ai même pas besoin de vous expliquer notre problème à nous. C'est ce que nous comprenons, c'est pas ce que nous ne comprenons pas de ce qui a été lu. Donc Jacques nous interpelle sur un aspect, une facette essentielle de l'Évangile, c'est que le salut en Jésus nous transforme et cela se voit dans notre façon de vivre. Et vous voyez, déjà dans les textes que nous venons de lire, Jacques utilise un ton souvent radical pour dénoncer, je pense, les traditions religieuses et le bagage culturel qui nous tire en arrière et dont il faut absolument se défaire. Et moi, je trouve ça étonnant que Jacques ait écrit cette lettre, parce qu'en fait, il l'a écrit à la toute jeune Église. Pensez au premier chapitre de Livre des Actes, l'Église qui naît, qui grandit de manière extraordinaire. Et probablement, il l'a écrit avant le Concile de Jérusalem, c'est-à-dire avant le chapitre 15 du Livre des Actes. Donc, c'était écrit avant les évangiles qui nous ont été transmis. Mais s'il était obligé de le faire, ben, son message est finalement intemporel et général, et il me met mal à l'aise personnellement quand je lis « Mettez en pratique la parole, mettez en œuvre la foi ». Nous en avons besoin, parce que nous aussi, nous venons presque dans la vie ou dans notre Église avec un bagage religieux, culturel, qui souvent nous l'utilisons pour trouver des excuses pour ne pas garder notre pensée, notre vie centrée sur le Seigneur Jésus. Et c'est ce, là, vraiment le message, je crois, de Jacques, et c'est le message du Nouveau Testament. Alors, je voudrais reprendre ces deux textes. Le premier, donc Jacques 1, en un mot, ça veut dire, Jacques dit, « La parole doit être mise en pratique », et il plaide. Et dans le deuxième texte, il dit « La foi, elle doit être mise en œuvre ». Et là, il est encore plus fort, en quelque sorte, il répète. On va considérer ces deux expressions équivalentes pour ce matin. La parole semée en nous, que Jacques nous invite à accueillir avec douceur, nous devons la mettre en pratique. Mettez-la en pratique. C'est cette parole qui nous sauve. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et Jacques, ici, dans ce passage, chapitre 2, nous dit, en citant l'épreuve suprême d'Abraham, qui était celle d'amener son fils, par obéissance, amener son fils au mont Morija, parce que Dieu le lui avait demandé pour l'offrir en sacrifice, il nous est dit au verset 22 que la foi d'Abraham, à ce moment-là, la foi devint parfaite. Et Abraham, il est justifié par la foi en la mettant en œuvre. C'est parce qu'il a fait, il a vécu pratiquement ce que Dieu lui a demandé, que sa foi est devenue parfaite. Et donc cette année, nous nous lançons le défi de lire ensemble la lettre de Jacques, et nous ne le faisons pas seulement pour augmenter en connaissance, mieux comprendre les Écritures, grandir en sagesse, parce que c'est un livre qui a le style de la sagesse, pour écouter, mais bien pour le vivre, pour la mettre la parole entendue, comprise, en pratique, et pour mettre notre foi en œuvre, comme l'ont fait Abraham, l'ami de Dieu, mais aussi tout à l'opposé du spectre social, Rahab, la prostituée, et tant d'autres dont nous avons le témoignage dans les Écritures, et aussi tant d'autres qui nous ont précédés dans la course chrétienne et dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et je pense à Hébreux 12 qui nous dit que nous sommes entourés d'une immense nuée de témoins qui nous encourage, ce que nous en savons, nous encourage à courir avec persévérance dans le chemin que le Seigneur nous a proposé, nous a ouvert. Voilà, donc nous avons ces deux passages similaires qui nous invitent à mettre en pratique, mettre en œuvre la parole, notre foi. Alors, bien sûr, ce qui rend la lecture désagréable, c'est que c'est écrit comme des impératifs. Il faut absolument le faire. C'est un essentiel. Chapitre 1, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Donc, c'est une parole très, très forte il va la développer, cette idée, Jacques, par rapport au se regarder dans le miroir et se détourner comme si on n'avait rien vu. Donc, si on ne l'écoute, si on ne le met pas en pratique, c'est une illusion. Donc, c'est rien. Et il est encore plus incisif dans le deuxième passage, et c'est dans le quad 9, verset 2, verset 17. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bel et bien morte. Donc, c'est une parole très, 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 très dure. C'est pas que du tout que Jacques manque d'amour dans ce qu'il dit, mais il veut simplement montrer l'importance de cette réalité. Il faut que ça se traduise à un moment ou à un autre dans notre vie. Et encore au verset 20, il va dire « Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien ?» Donc, sinon, s'il n'y a pas la mise en œuvre, il n'y a en fait rien. Cela annule la foi tout court. Et tout à la fin du passage, verset 26, il dira, voilà, il parle comme dans les proverbes, « Comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc voilà un parallèle très fort. Et nous comprenons très bien le premier. S'il n'y a plus de souffle, si le corps est privé de souffle, on est mort. Et là aussi, si la foi n'est pas vécue, elle est morte. Alors, présenté comme ça, je me rends compte que je parle négativement, mais ce n'est pas du tout mon but. Je veux simplement partager cette interpellation de Jacques. Et dans le reste du temps, tout de suite, c'est donner juste quelques éléments. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, mettre en œuvre, mettre en pratique, et nous encourager à ne pas nous inquiéter devant ces paroles, mais à simplement faire. Et d'abord, une toute petite remarque. Je voudrais souligner, du moins affirmer, je ne vais pas le développer, la cohérence entière du message de Jacques avec l'enseignement des Écritures et du Nouveau Testament. C'est le même message que l'enseignement de Jésus, d'ailleurs c'est son langage, on retrouve des paroles tout à fait similaires dans la bouche de Jésus. C'est le même enseignement que Paul, sans les développements doctrinaux, mais si nous regardons la fin des lettres de Paul, on retrouve des paroles similaires également. Nous allons donc utiliser d'autres passages de la Bible et surtout du Nouveau Testament pour illustrer mon propos, pour essayer de présenter les idées de Jacques. Je vais commencer par un passage de ma lecture quotidienne de ce matin qui montre en fait que le message de Jacques est fort vieux. On le trouve dans Deutéronome chapitre 5, verset 31, à la fin de la répétition du décalogue, de la loi. Là, Dieu parle au peuple, et surtout là à Moïse, il va leur dire « Tu leur enseigneras les commandements pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne en possession. En tout, vous suivrez le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracé. Alors vous vivrez. Vous aurez du bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. » Donc, on a ce message depuis le début, depuis le décalogue, qui en fait est une loi de vie pour nous donner la vie. Et il a été donné à Moïse et par Moïse au peuple. Et vous avez vu, il faut suivre ce que Moïse dit ici au peuple, il faut suivre. Mais nous... nous voulons suivre la personne de Jésus. C'est l'Évangile, si on veut le résumer en un seul mot, c'est suivre l'invitation de Jésus qui nous dit « Suis-moi ». Et donc j'aimerais vous lire à la suite quelques versets de l'Évangile de Matthieu, qui sont des paroles de Jésus, qu'il a adressées à ses disciples pour les appeler et qu'il a adressé à d'autres disciples tout au long de l'Évangile ou de ceux, des personnes qui voulaient devenir disciples. Et je les lis pour nous montrer que finalement le message de Jésus, c'est le même que Jacques, montrer le côté radical, entier de l'appel de Jésus, et surtout pour nous donner un début de piste sur comment vivre, mettre en pratique la parole. Juste un début. Vous vous souvenez, on a en tête, lorsque Jésus a invité ses premiers disciples, il ne leur a pas donné un long exposé sur la confession de foi, il ne leur a pas expliqué les statuts, le règlement intérieur de l'Église. Nous le voyons simplement leur offrir l'invitation de déposer tout fardeau qu'ils ont porté trop longtemps et de le suivre. Alors, on va en lire quelques-uns. Ça, je fais référence à Matthieu 4, les versets 19 et 20. Jésus appelle Simon et son frère André, et il leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et dans le verset suivant, il avance, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient là en train de réparer les filets avec leur père, parce qu'ils étaient pêcheurs. Il les appela, aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jusqu'à ce jour, chaque fois que je lis ces passages, j'essaye d'imaginer combien de temps ça a mis pour qu'ils le suivent. Parce que l'Évangile nous dit « aussitôt ». Et vous vous souvenez de l'Évangile de Marc qui utilise ce mot encore avec d'autant plus de foi quand Jésus pose une question ou dit quelque chose, aussitôt il se passe quelque chose. Et ses disciples, je peux trouver toutes les explications possibles, mais ils n'ont pas attendu longtemps. Et ils ont tout laissé. Le travail qu'ils étaient en train de faire, ils l'ont laissé et ils ont suivi Jésus. Et on va continuer, et je lis un peu la suite de ces passages, de ces appels, pour nous montrer que lorsqu'on les additionne les unes aux autres, à quel point le message de Jésus est fort, mais simple. Au chapitre 8, verset 22, Jésus parle à quelqu'un qui veut le suivre, un disciple, mais qui veut d'abord s'occuper d'autre chose. Jésus va lui dire « Suis-moi et laisse les morts enterrer leur mort. » Là, il est question de priorité personnelle. Au chapitre 9, verset 9, c'est un autre disciple que Jésus appelle. Il appelle Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Là, ce n'est plus le pêcheur, des pêcheurs, c'est un collecteur d'impôts, un tout autre métier. Mais là aussi, il se leva et le suivit. Et ensuite, les autres versets qui nous montrent le prix de suivre Jésus, 10, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et ensuite, 16, verset 24, « Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et un dernier passage, au chapitre 19, le jeune homme instruit et riche aussi, il va lui dire ceci, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Voilà, quelques passages, quand je les ai lus à la suite, il y a quand même un message là-dedans. Et on voit que, avec ces paroles de Jésus et ces différentes circonstances, qu'il n'a pour lui jamais été question d'étiquette théologique ou d'adhérer à une structure théologique particulière, ou même de devenir chrétien au sens d'une religion, le message de Jésus est, et il a toujours été, une invitation directe et simple à le suivre et à apprendre à être comme lui. Et donc ce message est très simple. C'est une invitation à nous défaire de tout fardeau, de tout ce qui est trop lourd. Moi, j'ai utilisé le mot fardeau religieux et culturel. Je n'ai pas le temps de développer. Mais tout ce qui nous empêche d'être centrés sur lui. Et ensuite, de regarder à lui, parce que nous le croyons ici. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est avec lui que nous voulons vivre, marcher, recevoir de lui. Et sur l'importance de suivre Jésus, je voudrais lire un passage parallèle au message de Jacques. Jacques chapitre 1, c'est « Mettez en pratique la parole ». Ben, c'est presque les paroles de Jésus, Matthieu 7, les versets 24 à 27. Et pendant la lecture, vous pouvez noter à quel point le message est similaire à celui de Jacques. Jésus nous met en garde des dangers encourus et des conséquences d'orienter notre vie vers autre chose que lui, que sa personne. Donc nous pouvons lire Matthieu 7. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Je connais ce passage de l'école du dimanche, mais il est au centre de ce que nous sommes en train de voir par rapport à mettre en œuvre la parole de Dieu. Jésus dit que ceux qui réorientent leur vie dans le but de faire des paroles de Jésus, ses enseignements, l'exemple de Jésus, d'en faire le fondement de leur vie, il dit « ceux-là sont sages ». D'accord ? Et le livre de Jacques, c'est un peu comme un livre de sagesse. Et son message, c'est celui-ci. Fonder notre vie sur Jésus, l'avoir vraiment au centre. Et ne rien laisser nous en dévier. Pas même notre service pour le Seigneur ou pour telle ou telle chose. Il faut tout analyser par rapport à cette idée, à cette chose, à l'essentiel de suivre Jésus. Et je vous invite à relire un verset que nous avons lu tout à l'heure par rapport au repos. Jésus nous invite à le suivre pour que nous soyons avec lui, pour qu'il puisse nous enseigner. Nous avons lu ensemble le verset 28 de Matthieu 11 et nous allons continuer la lecture. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, laissez-moi vous enseignez, dit une autre traduction, devenir disciple. C'est laisser Jésus nous enseigner, nous instruire. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Ce que nous avons vécu au début du culte, et le repos dont nous avons parlé et qui est présenté ici, c'est ce qui sous-tend le message de Jacques par rapport à la mise en pratique. Et c'est la même chose ici. Vous voyez, d'abord Jésus dit de venir à lui, qu'il nous donne du repos, il nous dit de ne pas nous inquiéter, et il nous dit, allez-y, devenez mes disciples, parce que mon joug est léger. Et c'est possible de le faire, et c'est même merveilleux de le faire. Donc, suivre Jésus, c'est en quelque sorte limité. Nous ne pouvons plus le faire directement, mais nous avons tous ceux qui nous ont précédés et nous avons la parole pour nous le montrer. Je vous donne juste le témoignage que Paul rend, ou à faire penser, le témoignage que Paul rend aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, c'est incroyable, si je me rappelle bien de mon cours de formation. Paul y est à peine passé, il est resté quelques semaines, et une église est née. Et quand on lit la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, il décrit exactement ce dont nous voulons parler ce matin. Voilà le témoignage que, dans les versets 6 à 10, que Paul rend aux Thessaloniciens. Il leur dit « Vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves. Vous êtes devenus un modèle. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout. Les gens disent comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable, d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. » On a ici une illustration des premiers croyants qui se sont convertis et qui ont mis en pratique leur foi devant des épreuves pratiques très difficiles. Et tout le monde l'a su et ça a été un encouragement pour tous les croyants. Donc voilà un peu les idées. Et il y a encore quelque chose que j'aimerais dire, c'est que par rapport aux paroles qui disent « il faut faire », je voudrais vraiment dire, sans vraiment le développer, que notre motivation à faire doit toujours être l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, comme c'est enseigné dans les Écritures. Parce que le style de la lettre de Jacques, ce style a valu le scepticisme de Luther pendant un temps, c'est celui de la sagesse, à l'instar du livre des Proverbes. On y trouve des maximes concises, des déclarations frappantes et mémorables. Et donc, dans le vocabulaire de Jacques, la sagesse, elle est traduite en action, en œuvre particulière, qui sont des preuves que notre foi est authentique, vivante. Ce ne sont pas des œuvres pour dire que nous avons fait quelque chose pour notre salut, ce sont des preuves que notre salut est vrai. Et donc, même si ce n'est pas visible à première lecture, Jacques nous montre comment mettre en pratique les deux plus grands commandements que Jésus a réitérés dans les évangiles, c'est-à-dire « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » Jésus le cite alors que c'est le passage de Deutéronome 6, c'est juste après les versets que nous avons lus tout à l'heure dans le Deutéronome. Et le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et même si le mot « amour » n'est pas dans le livre de Jacques sous cette forme, il rappelle ce deuxième commandement. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont vraiment à la base du message de Jacques, et bien sûr de celui du Nouveau Testament. C'est donc une notion très importante, on n'a pas le temps de la développer ici, mais je vous la laisse deviner si vous pensez aux thèmes, les thèmes du chapitre 2. Il faut être impartial, c'est comment nous considérons notre prochain, surtout quand il est différent, quand il a une culture ou qui vient d'une dénomination différente, la langue, nos paroles, comment nous parlons avec les autres, la paix, comment nous vivons en paix avec les autres. Donc Jacques traite de tous ces thèmes, mais à la base, derrière, il y a l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui doit absolument nous motiver. Sinon, nous allons recréer une loi, des règles, et nous n'allons pas attirer les autres. Je pense à la devise de l'année, le verset que nous avons choisi cette année, Et je me dis, ça pourrait très bien être une parole de Jacques. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres. Nous avons toute l'année, depuis le début de l'année, nous sommes interpellés par ce mot. Et moi, ça m'interpelle toujours. C'est un commandement, c'est comme, un peu comme Jacques. Et plus j'y pense, plus ça me remet en question. Parce que je dois grandir dans cet accueil. Je ne vous accueille pas pour vous faire entrer dans ma façon de penser. Nous n'accueillons pas des personnes à l'Église pour qu'ils fassent exactement comme nous. Nous nous accueillons les uns les autres comme nous sommes, en étant chacun centré sur Jésus, et nous recevons notre prochain. Et Paul, quand on regarde chapitre 14 et 15 de Romains, il voit cela même bien au-delà de juste nous, notre Église. Dans les versets qui suivent, je l'ai peut-être déjà dit, parce que je répète, il y a des choses qui me tiennent à cœur, donc je les répète, mais son argumentaire, c'est que c'est pour toutes les nations. Et juste après avoir dit ça, accueillez-vous les uns les autres, il va dire, mais les nations louent Dieu parce qu'il les a accueillis. Et il cite 4 fois l'Ancien Testament pour montrer que le salut est pour toutes les nations. Une fois le Deutéronome, 2 fois les psaumes, 1 fois Ésaïe. Il en fait vraiment un argumentaire. Le message de l'accueil de l'autre croyant, aussi différent qu'il soit, de l'autre personne, il est pour tous. Et regardez la construction. Là aussi, accueillez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Comme le Christ vous a accueillis. Comment le Christ nous a accueillis ? Il est écrit dans Romains 15, il est devenu votre serviteur, il est devenu le serviteur de ceux qu'il a voulu accueillir. Et pour la gloire de Dieu, ce qui importe, c'est que notre vie, nous la vivions pour la gloire de Dieu. C'est le thème central de Romains 14 et 15, c'est répété 3 ou 4 fois. Donc accueillez-vous donc les uns les autres pour la gloire de Dieu. Donc si Paul l'exprime ici, le message de Jacques est le même. Donc nous ne partons pas sur des règles difficiles qu'il faut absolument faire. Non, nous devons nous appuyer. D'ailleurs, si on le fait, on va complètement rater notre mission ou même notre vie. Voilà. Je conclue avec le mot transformation. La transformation produite par la vérité de l'Évangile. Je cite Jack Hayford, qui dit que, dans un livre sur la prière de Jésus, « Alors que Jésus enseigne, son objectif est toujours de nous aider à corriger notre façon de penser, à nous convertir, à changer d'orientation, d'optique, pour regarder comme lui, pour nous aider à voir à quoi ressemble vraiment notre Père céleste, afin que nous sachions entrer en relation avec lui. » Et c'est un travail quotidien. Et les vérités contenues dans les paroles de sagesse de Jacques ont ce but: transformer, révolutionner notre façon de penser pour produire le fruit dans nos vies. Et je vous lis le dernier verset. Dans une nouvelle traduction de Romains 12, verset 2, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Alors, ce qui est original dans cette traduction, c'est que c'est Jacques, donc c'est pas lui, c'est qu'il est dit ici de manière active, transformez-vous. Et on sait très bien qu'on ne peut pas se transformer. Mais ici, l'accent est mis, on a l'habitude de dire « soyez transformés ». Mais quelque part, je vous laisse ça comme réflexion entre ce que le Seigneur fait et ce que nous devons aussi faire, non pas pour notre salut, mais pour la mise en œuvre. Je vous laisse cette traduction du verset. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Le but, c'est de discerner la pensée de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable. Voilà. Alors, je reprends mes toutes dernières phrases. Je reprends le magnifique chant que nous avons chanté deux fois ce matin. Et merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever pour marcher à la suite de Jésus. Nous avons chanté « Par la foi, j'avance. » Parce qu'en ce jour, j'ai ton amour. Et je ne m'inquiète pas, car tu es avec moi. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Amen.